Bonjour, c'est Sandrine Blanchard de la Deutsche Welle.
Oui, bonjour.
Quels sont d'abord les différents volets de la coopération militaire qui existent entre la France et l'Allemagne ?
Les différents volets de la coopération militaire, c'est le fait que les Français et les Allemands, à l'heure actuelle, sont engagés au Sahel et notamment au Mali. Alors, ils ne sont pas exactement dans les mêmes structures. On se souvient que la France avait donc conduit une opération en 2013, quand il y avait eu les djihadistes, avec Serval, quand les djihadistes étaient descendus sur Bamako, ça s'est transformé en opération Barkhane. Mais les Allemands, eux, sont intervenus dans le cadre de l'opération de l'Union européenne, UTM Mali, qui vise à soutenir et renforcer et former l'armée malienne. Et on se souvient peut-être qu'au moment où il y a eu les attentats de novembre 2015, la France avait invoqué l'article 42 alinéa 7, la clause d'assistance mutuelle de l'Union européenne. Et à ce moment-là, les Allemands n'avaient pas spécifiquement aidé les Français aussi en Syrie, mais l'aide, elle avait pris la forme d'un renforcement de la présence allemande dans l'opération UTM Mali, une sorte de mutualisation en fait des forces extérieures de la France et de l'Allemagne.
Alors, il y a une brigade aussi franco-allemande qui va peut-être être amenée à être déployée davantage dans la région du Sahel, en soutien au G5 Sahel. Comment se fait-il que la France et l'Allemagne continuent dans le domaine militaire à miser sur le bilatéral alors qu'il y a des structures permanentes qui existent, dont elles font partie, l'OTAN, l'Union européenne. La France et l'Allemagne participent à la MINUSMA aussi au Mali, la mission de l'ONU. Pourquoi quand même continuer dans le bilatéral ?
Je pense que le bilatéral, à ce niveau-là, c'est le but, c'est d'avoir un effet d'entraînement au niveau de l'Union européenne. On le voit sur les décisions qui ont été prises aujourd'hui lors du Conseil des ministres franco-allemand avec le document Une alliance pour le Sahel. Le but, c'est effectivement de renforcer la présence franco-allemande au Sahel, notamment pour tout ce qui est aide civile. Mais le but est bien derrière d'essayer d'entraîner les autres pays membres de l'Union européenne dans cette aide globale au Sahel, qui encore une fois recouvre non seulement les instruments de sécurité, mais surtout les instruments d'aide au développement, à la gouvernance, etc., etc. Donc, je pense que dans ce cas-là, il ne faut pas opposer le bilatéral au multilatéral. Je pense que c'est simplement un moyen d'essayer d'entraîner nos partenaires. Plutôt que d'avoir une discussion à 28 qui peut être stérile, on avance à deux en premier, mais avec l'objectif de pouvoir entraîner les autres.
Est-ce que ça veut dire aussi que la France et l'Allemagne poursuivent les mêmes objectifs dans le Sahel ?
Ce qui est nouveau, quand je dis que c'est nouveau, c'est que c'était une situation qui n'était pas celle-là il y a 10 ou 20 ans. Ce qui est nouveau, effectivement, c'est que maintenant, il y a des intérêts communs entre la France et l'Allemagne au Sahel et en Afrique en général.
Donc en matière de lutte contre
le terrorisme.
Il y a 20
ans, quand la France conduisait une intervention militaire, on disait que c'était pour les intérêts français et que c'était pour la France-Afrique. Aujourd'hui, je pense que les Allemands ont compris que quand on conduit une opération militaire, on ne le fait pas spécifiquement pour nous, mais pour des questions de sécurité. Et puis surtout, la France cherche toujours à entraîner ses partenaires européens dans les opérations de gestion de crise en Afrique. On ne veut surtout pas être seul, si je puis dire. Et ce qui est nouveau, c'est que l'Allemagne... L'Afrique est devenue un enjeu de sécurité pour l'Allemagne. Je pense que l'élément essentiel, en fait, c'est la question migratoire. Parce qu'on a un mouvement de migration qui part en fait de l'Afrique de l'Ouest, qui traverse toute la bande sahélienne, qui débouche en Libye et qui après... entraîne des mouvements migratoires sur l'Italie, mais également sur l'Allemagne. Donc l'Allemagne, maintenant, a compris également son intérêt, et son intérêt, en fait, à stabiliser l'Afrique.
Dans une note que vous avez publiée en mars 2016 pour l'IRIS et la fondation allemande Friedrich Ebert, vous
Oui.
expliquez que les postures traditionnelles de la France et de l'Allemagne après-guerre et même après la réunification allemande n'étaient pas la même en ce qui concerne notamment l'efficacité ou l'intérêt d'une intervention militaire pour régler une crise ailleurs dans le monde. Est-ce que ces différences se sont retrouvées aussi dans le Sahel? Et est-ce qu'il y a des changements aussi dans la façon d'envisager la coopération quand vous parliez de l'intergouvernemental ou du communautaire où les deux pays n'avaient pas la même vision des choses?
Je pense que quand on regarde le document qui a été publié aujourd'hui, ce qui est frappant, c'est que cette alliance pour le Sahel, l'essentiel du document porte sur l'aide au développement.
Oui, la lutte contre
elle
le
porte
chômage,
sur
déjà.
La gouvernance des pays du Sahel. Donc on va dire qu'on a une approche qu'on pourrait qualifier a priori de plus allemande que française. Bon, c'est en réalité c'est pas vraiment le cas, parce qu'on est quand même persuadé depuis très longtemps qu'une gestion de crise, c'est pas uniquement des outils militaires, mais c'est également des outils civils. Mais là, c'est particulièrement notable dans le document qui a été publié aujourd'hui. C'est-à-dire qu'on voit très bien que on a un rapprochement en fait des concepts même de gestion de crise entre la France et l'Allemagne. Et ça, c'est quand même essentiel. Hein. C'est quand même essentiel parce que c'est une évolution de long terme, et je pense qu'on ira vers un rapprochement de plus en plus important des concepts de gestion de crise des Français et des Allemands.
Si ce n'est que, est-ce qu'il n'y a pas aussi quand même une francisation de la structure ou de la gestion, dans ce sens où ce sont les gouvernements qui ont décidé qu'on ne s'en est pas remis à des institutions comme l'Agence européenne de défense ou la Commission européenne pour développer une vision, une stratégie européenne.
Encore une fois, je ne pense pas, parce que la Commission européenne, l'Agence européenne de défense, pour ce qui est des questions de sécurité, ça ne pourra véritablement avancer que si en même temps vous avez un soutien extrêmement fort des États membres, et un soutien extrêmement fort des États membres pour faire des choses ensemble. J'ai envie de dire, après, si vous prenez par exemple, bon là on sort de l'Afrique, mais si vous prenez la coopération structurée permanente, donc français et allemands, a priori, ont commencé à définir des critères communs. Mais concrètement, la coopération structurée permanente, c'est l'Agence européenne de défense qui va l'appliquer. Je ne pense pas que l'un soit exclusif de l'autre. Alors c'est vrai que dans le passé, on a surtout fait de la coopération bilatérale, trilatérale, et les instruments communautaires étaient, où l'Agence européenne de défense était mis de côté. Mais là, si vous prenez le momento actuel, l'idée du Fonds européen de défense, par exemple, c'est la Commission européenne, hein, pour financer des programmes d'armement. Et là, aujourd'hui, bah, Français et Allemands rebondissent en disant, bah, écoutez, nous, on a des projets, on a des propositions de projets franco-allemands, mais qui ne sont pas destinés à être uniquement franco-allemands, qui peuvent être financés par le Fonds, qui pourraient être financés par le Fonds européen de défense.
Et une toute dernière question au sujet de l'engagement allemand cette fois. Est-ce qu'il y a aussi un changement dans la politique du gouvernement allemand qui maintenant envoie des troupes, y compris avec un mandat robuste sur le terrain, et ne se limite plus justement aux missions de formation comme le UTM Mali et qui envoie des soldats à Gao dans le nord du Mali et participer au combat?
Je pense que c'est une évolution qui, en fait, si on regarde un petit peu le passé, est une évolution qui est tout à la fois lente, mais sur lequel il n'y a jamais eu de retour en arrière de l'Allemagne. Il ne faut pas oublier que la décision des Allemands de pouvoir participer à des opérations extérieures hors article 5 du traité de l'Atlantique Nord, la décision de la Cour de Karlsruhe, elle date de 1994.
Avec le
Kosovo. Donc progressivement, on a avancé. La nouvelle politique allemande qui est de dire on a un rôle mondial, on a une puissance économique importante, on ne peut pas se désintéresser totalement de ce qui se passe sur la scène internationale, nous avons à remplir des obligations, c'est la politique, c'est le discours d'Angela Merkel depuis son élection en 2012. Donc on voit bien que petit à petit, on a une évolution dans ce sens-là. Mais j'ai envie de dire que on va pas demander, notamment nous Français, on va pas demander aux Allemands du jour au lendemain d'aller faire des opérations de combat de très haute intensité, parce que je dirais que ce n'est pas encore pour le moment dans les gènes de l'Allemagne. Et j'ai envie de dire, c'est pas nécessairement une mauvaise chose, parce que tout à la fois les Allemands doivent faire plus, mais les Allemands, ils ont peut-être aussi, nous Français, des choses à nous apprendre en matière de prévention des crises, en matière d'anticipation des crises, en matière d'instruments non militaires de gestion de crise. Je pense qu'à un moment donné, ce sera une fusion des concepts de gestion de crise des deux pays qui se rapprocheront progressivement dans le temps. Hein. Je pense que c'est encore loin d'être la fin de l'histoire, mais je pense que si on regarde sur 25 à 30 ans, il y a un rapprochement progressif. C'est une excellente chose.
Et qu'en est-il de l'armée européenne? Vous la voyez envisageable à quelle échéance?
Ce que je pense, c'est qu'on aura de plus en plus, tout simplement, de coopération, de politique étrangère commune, parce qu'il faut déjà avoir une politique étrangère commune hein, avant d'avoir une armée commune. On aura de plus en plus de coopération, et peut-être un jour, je dis bien peut-être un jour, on aura une armée européenne, c'est-à-dire avec des soldats qui combattront et qui auront été formés sous un drapeau européen. Bon, je pense que c'est ce qu'il faut avoir en tête. C'est pas quelque chose qu'on peut imaginer, on va dire, dans un avenir prévisible en même temps.
Très bien, Monsieur Molny, je vous remercie. Bonne fin de journée, au revoir.